Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot, une émission cruelle qui s'en prend aux entraîneurs sans défense. Didier Deschamps, par exemple, le sélectionneur des Bleus, va devoir rebâtir son arrière-garde suite à la blessure de Raphaël Varane, et c'est Adil Rami qui disputera l'Euro à sa place. J'en connais un qui doit être content, Samuel Umtiti. Pour rappel, le natif de Yaoundé fait partie de la liste des réservistes, contrairement à l'invité surprise sévillan. Heureusement, à Radio Foot, nous n'avons pas ce type de problème, ici pas de réservistes, tous les consultants sont des titulaires indiscutables, concurrence saine, émulation constante, la preuve aujourd'hui avec la présence d'Étienne Moati. Bonjour Étienne.
Merci de ce titre de titulaire, je l'attendais, je l'espérais.
Et vous le partagez avec Patrick Juillard, également présent aujourd'hui. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo et bonjour à tous.
Et Salim Bamgali vient compléter ce trio de choc. Bonjour Salim.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Mais Étienne, est, en plus d'être titulaire, il est une sorte de capitaine pour nous, hein. C'est encore au-dessus.
Je n'en demandais pas tant.
Il y a du respect entre les générations, les anciens et les nouveaux. J'ai dit anciens.
Les expérimentés.
J'ai pas dit autre chose, Étienne. Alors si Didier Deschamps fait face au problème, Luis Fernandez, lui, a décidé de les éviter. Il n'est plus le sélectionneur de la Guinée. C'est une drôle de page qui se referme pour le Sili, drôle dans tous les sens du terme. Alors que se profile une rencontre très importante face au Swaziland, la Guinée n'est pas du tout assurée de disputer la prochaine CAN. Et c'est aussi un petit peu ça, l'héritage Luis Fernandez. Mais comme nous savons aussi être sympas dans Radio Foot, nous dirons du bien d'un entraîneur dans cette émission, le Suisse Lucien Favre, le technicien très convoité, très apprécié en Allemagne, signé à Nice. Si vous ne le connaissez pas, rendez-vous en fin d'émission. Patrick Juillard nous fera l'éloge du nouveau coach des Aiglons. Radio Foot, c'est parti. Mais pour débuter cette émission, comme promis, les déboires de Didier Deschamps à 16 jours du coup d'envoi de l'Euro en France. Le sélectionneur des Bleus pensait partir avec une défense centrale plus ou moins établie, à défaut d'être performante. Varane à droite, Sako ou Koscielny à gauche. Le problème, c'est que Sako n'est pas un expert de l'automédication et Raphaël Varane est blessé. Et oui, le Madrilène a finalement été remplacé hier par Adil Rami. Le défenseur du FC Séville ne faisait pas partie de la liste des réservistes. J'en parlais à l'instant, au contraire de Samuel Umtiti. Mais Samuel Umtiti, il est gaucher et Didier Deschamps, il avait besoin d'un droitier. Alors bon, c'était pas à moi d'expliquer les décisions du sélectionneur français. Il l'a très bien fait lui-même il y a quelques minutes en conférence de presse à Clairefontaine, le QG des Bleus, sous les yeux d'Éric Chorin, qui est avec nous en direct. Bonjour Éric.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors, rappelez-nous un petit peu ce que vous a dit Didier Deschamps en conférence de presse. J'imagine évidemment qu'il est revenu sur les derniers rebondissements, le forfait de Raphaël Varane et l'arrivée triomphante de Adil Rami.
Ah bah écoutez Hugo, s'il avait pas voulu, il aurait pas pu l'éviter. Hein. Dès la première question, évidemment, c'était le sujet central en deux questions en une. Pourquoi du coup avoir décidé de se passer de Raphaël Varane, et ensuite pourquoi avoir appelé Adil Rami sur le cas de Raphaël Varane. Il a expliqué qu'il y avait, l'information du Real Madrid évoquait une blessure qui pouvait le rendre indisponible 2 à 3 semaines, hein, à la cuisse. Et ensuite, il a vu le médecin des Bleus. Il y a eu des vérifications faites hier. Et à la suite de ces vérifications, il a considéré qu'il y avait trop d'incertitudes par rapport à la blessure et à la durée de son rétablissement, enfin de sa convalescence et ensuite de son rétablissement, pour se projeter au-delà des matchs du premier tour. Parce que vu ce qu'ils ont constaté ici, a priori, les échéances du 10 face à la Roumanie, du 15 face à l'Albanie et de la Suisse le 19 étaient impossibles pour Raphaël Varane. Il a donc choisi de Didier Deschamps, de penser au groupe et à la suite, c'est ce qu'il a dit, et donc de se passer de Raphaël Varane. Voilà pour Raphaël Varane lui-même, pion essentiel de cette équipe, puisque c'est celui qu'il a aligné quasiment tous les matchs, en tout cas dès qu'il en a eu l'occasion, lors de la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, au risque de ne pas essayer d'autres charnières, et résultat, il lui manque la pièce maîtresse de cette charnière. Et puis ensuite, sur le cas de Adil Rami, Hugo, et ben écoutez, il a expliqué effectivement, comme vous l'avez dit, que s'il y avait simplement une raison liée au pied, hein, gauche ou droit, 3 gauchers sur 4, ça ne lui convenait pas, donc il n'y a pas de raison sportive selon lui pour ne pas prendre Samuel Umtiti, mais plutôt effectivement le fait de pouvoir associer des droitiers et des gauchers. Alors ça, c'est un débat, à part selon lui, d'avoir 2 gauchers en défense centrale, c'est plutôt compliqué et plutôt rare. à vérifier. Et puis ensuite, Adil Rami, il s'est expliqué avec lui. Ils ont discuté un petit peu, hein, parce qu'il a eu quelques mots, Adil Rami, à l'encontre de Didier Deschamps et de la décision de ne pas l'avoir retenu pour cet euro initialement. Et il a expliqué qu'il s'était parlé, qu'il lui avait clairement dit que s'il avait une impression qu'il ne comptait pas sur lui, puisqu'il était là, il s'était trompé. Il a juste précisé qu'ils avaient un point de désaccord concernant... lors d'une interview qu'il avait faite sur une radio concurrente, hein, le fait que Didier Deschamps lui ait conseillé d'aller plutôt en Espagne qu'à Lyon, et là il dit que là c'est tout à fait faux et que Adil le sait, voilà. Donc il va falloir faire avec maintenant avec Adil Rami, dans le groupe et sans Raphaël Varane.
Messieurs, le choix de Deschamps paraît logique, on l'a expliqué là, à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Est-il pour autant indiscutable, incontestable? Patrick.
Le choix de décider de se passer de Raphaël Varane, puisqu'on ne sait pas à quel moment il va revenir et dans quelle forme il sera lors de son retour, ça je pense que c'est raisonnable, parce qu'on sait que pour un groupe, d'avoir un joueur un peu convalescent
lors d'une
compétition, on a eu notamment le cas de Saï, je crois, à l'Euro 2004... si je me rappelle bien,
Zidane en 2002.
Qui était un peu patraque et qui a quand même joué. Il y a eu Vieira en 2006. Bref, c'était pas forcément idéal.
Vieira en 2008, je crois, hein, plutôt qu'en 2006.
Oui, 2008. C'était pas forcément idéal pour l'émulation et la saine concurrence, disons, au sein du groupe. Et puis même pour le sélectionneur, de savoir si oui ou non, ça introduit une incertitude de savoir si oui ou non il peut compter sur ce joueur à horizon J+3, J+7. Maintenant, le choix de prendre Adil Rami, là encore, sur la saison, Adil Rami, pour moi, à sa place dans les 23, sur ce qu'il a démontré en Espagne et en Europa League. Ce que je trouve un petit peu plus dommage, c'est d'avoir pris un joueur qui ne soit pas réserviste. Donc, que vaut cette liste des réservistes? C'est un peu comme la charte, finalement. La hiérarchie des normes en équipe de France n'est pas bien établie. On a une charte. Benzema est en infraction manifeste avec cette charte, mais on attend 3 mois avant de le déclarer non sélectionnable. Et pareil, là, on a une liste de réservistes qui est censée faire autorité. On nous sort un joueur du chapeau, donc... je trouve ça un peu dommage. Il aurait pu élargir cette liste de réservistes.
Il s'est exprimé sur ce sujet, Didier Deschamps, sur la manière dont avait été composée cette liste de réservistes, Éric Chorin.
Alors, sur la manière dont elle avait été composée, il s'est exprimé lors du stage de Biarritz, essentiellement là-dessus, en réexpliquant que les 8 joueurs sélectionnés parmi eux ne pouvaient pas figurer, selon lui, d'anciens titulaires de l'équipe de France, que c'était plutôt réservé à des joueurs en devenir, comme c'était le cas de Umtiti ou de Sidi B. Il ne comptait pas mettre de... Alors, il y avait Schneiderlin dans cette liste, mais il n'était pas titulaire à la Coupe du Monde, il était lui-même réserviste à l'époque. C'est le seul revenait comme ça, sinon c'est des joueurs effectivement qu'il considérait, qu'il ne pouvait pas y mettre des titulaires. Après, il n'a pas vraiment beaucoup argumenté sur la composition de cette liste aujourd'hui. Il a plutôt essayé d'expliquer, un peu comme me l'avait expliqué un confrère d'Étienne Moati il n'y a pas très longtemps, Vincent Duluc, que les principes de Didier Deschamps, c'était surtout de savoir s'en passer et de les modifier quand il fallait s'adapter aux situations. Et là, visiblement, on peut considérer que Didier Deschamps n'avait pas forcément beaucoup anticipé la possibilité que Raphaël Varane ne soit pas là et qu'il a fallu qu'il prenne une décision assez rapide, un peu dans l'urgence. Il avait l'air un peu déconfit quand même en conférence de presse, parce que des problèmes il en a eu, il les avait plutôt bien gérés durant cette année. Et là, visiblement, c'était peut-être un petit peu le problème de trop, même s'il ne se dit pas inquiet pour la suite, mais il a quand même perdu un joueur cadre. Hein.
Là, c'est quand même une sacrée accumulation de problèmes, puisque la défense était déjà le point faible de l'équipe de France, Étienne, et là, il y a encore des problèmes dans ce qui était déjà un problème.
Oui, moi, enfin, je trouve que Didier Deschamps, il est surtout pragmatique, voilà. Et finalement, ça, on doit plutôt s'en féliciter. Je crois pas du tout, donc, à cette histoire, donc, que raconte Didier Deschamps pour endormir les enfants, c'est-à-dire qu'il y avait des réservistes, mais qui ne pouvaient pas être des titulaires de l'équipe de France. Parce qu'Adil Rami, on peut pas considérer que sur ces derniers mois, ces dernières saisons, c'était un titulaire de l'équipe de France.
Donc, il avait mal anticipé, tout simplement.
Exactement, il avait pas pensé, mais moi, je considère que tout ça n'est pas très grave et que ce qui est important, c'est de réagir et de réagir bien. Donc, réagir bien, donc, de pas emmener un joueur blessé, de réagir bien, de prendre le joueur qui convient aujourd'hui à l'équipe de France. Et je pense que ça en est fait plus Adil Rami pour en effet une question de pied. Et puis aussi peut-être parce que Adil Rami, c'est quelqu'un qui a énormément de mental, c'est quelqu'un qui est sur une très très bonne saison à Séville, donc c'est finalement la meilleure solution. Maintenant, ce qui concerne le forfait de Raphaël Varane, moi je fais partie de ceux, mais je suis un petit peu isolé, qui ne suis pas très inquiet de ce forfait-là, parce que...
Vous n'allez pas nous dire que c'est une bonne nouvelle quand même.
Je ne vais pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais je veux dire que Raphaël Varane, je trouve qu'il a assez peu progressé depuis 2 ans. C'est un joueur qui aujourd'hui est remplaçant au Real Madrid. Ça fait quand même un petit peu longtemps que ça dure. Et puis, ce n'est pas véritablement un leader de défense, ni un leader d'équipe. Finalement... Je suis moins inquiet si c'est Raphaël Varane qui se blesse que si c'est aujourd'hui Antoine Griezmann.
Vous voyez pourquoi c'est le capitaine, hein. Je le suis, hein, quand il évoque quelque chose, puisqu'effectivement, je suis...
C'est
dans...
un petit peu faillot, quand même.
Non, mais, à un moment donné.
C'est deux fois, déjà.
Enfin, il aura rien en retour, donc.
Pour compléter quand même son propos, effectivement, Raphaël Varane, cette saison, on a souvent évoqué le fait qu'au Real Madrid, Pepe et Ramos étaient titulaires et lui remplaçant. On se posait justement des questions sur son rythme, au final, en disant, il n'a pas eu une saison complète. Comment allait-il pouvoir ainsi jouer tous les 4 jours, 5 jours, au final, dans une grande compétition en si peu de temps? Mais au final, cette question-là, ouais, on n'aura pas à se la poser.
Moi, j'ai moins de souvenirs d'erreurs de Raphaël Varane que d'erreurs de Laurent Koscielny en équipe de France.
Oui, moi, j'ai pas de souvenir de très grands matchs non plus de Raphaël Varane en équipe
de
France.
Matchs de Koscielny.
Et j'ai regardé un petit peu la saison de Raphaël Varane au Real, c'était pas formidable.
Eric, il va falloir bricoler, il va falloir qu'il sorte ses outils, sa boîte à outils, Didier Deschamps, parce que va-t-il se passer? C'est quoi la suite? Rami va être titulaire ou bien va-t-il falloir décaler Koscielny à droite? Il en a un peu parlé tout à l'heure?
Non, ça il en a pas parlé.
Il vous livre pas ses secrets, vous n'êtes pas encore dans le secret des dieux.
Pas tout, non, surtout dans la nouvelle configuration de Clairefontaine pour l'Euro, avec un parcours de combattant obligé pour les journalistes pour pouvoir accéder au centre des médias, puis ensuite au centre de conférence de presse, et vice-versa. Et ce qu'il nous a dit surtout, il nous a appris que les réservistes, donc les huit joueurs qui étaient là, qui initialement devaient rester jusqu'à avec les Bleus avant leur départ à Innsbruck, donc jusqu'à après le match face au Cameroun, allaient quitter finalement les Bleus dès dimanche matin. Il a donc décidé, il avait un peu décidé déjà auparavant que les deux matchs amicaux seraient plus ou moins réservés aux 22 des 23 titulaires, joueurs retenus dans la liste pour l'Euro, puisque Griezmann n'est pas là. Mais là, c'est à conforter, il va vraiment essayer de travailler sur ces deux matchs avec les joueurs du groupe. Donc ça, c'était la première information qu'il nous a donnée. Et puis pour le reste, non, il n'a pas précisé avec qui il allait démarrer en défense. Il se dit plutôt serein. Malgré tout, pas inquiet, même si c'est un coup du sort qui l'embête un peu quand même de voir se passer de Varane. Il a confiance dans les autres joueurs qui sont présents. Il y en a quand même un qui inquiète un petit peu, c'est Jérémy Mathieu aussi, parce que lui aussi, il est touché, hein, un petit problème au mollet. Il attend plus d'informations d'ici la fin de la semaine pour savoir ce qu'il en sera de Jérémy Mathieu, qui ne jouera pas déjà de toute façon le match face au Cameroun. Donc on a une info par défaut. Voilà.
Merci Eric Chorin, vous avez fait beaucoup rire là autour de ce plateau, ça se marie pendant que vous parliez. Qu'est-ce qui se passe?
Pour réagir effectivement au propos d'Eric, qui lui-même expliquait et évoquait le propos d'Didier Deschamps, qui disait donc que les joueurs vont partir et quitter l'équipe de France, les réservistes, le 29 au final. Le match France-Cameroun a lieu le 30. Je ne souhaite pas de malheur, mais imaginez à l'instant qu'il y a un blessé, ça veut dire que ces réservistes qu'on a demandé, à qui on a demandé de partir, finalement on va en rappeler un au dernier moment. Enfin, il y a un... Pardon, hein, certains vont parler de logistique, hein, c'est du détail, mais quel intérêt, on peut les garder encore 2 jours, ils sont dans le groupe.
C'est pour pas qu'Umtiti puisse passer côté camerounais à l'occasion du match. En fait.
Ah, vous pensez que... Non.
C'est une boutade,
d'accord, c'est une boutade.
Ça m'a effleuré l'esprit.
C'est un coup dur quand même pour Samuel Umtiti,
on peut en
parler. Un joueur qui était réclamé par beaucoup de journalistes, là, il s'est fait passer devant par quelqu'un qui était derrière lui à la base.
Oui, enfin, quelqu'un qui... J'ai jamais été un grand défenseur d'Adil Rami, mais il faut reconnaître que cette saison, il a été bon, voire par séquence très bon avec le FC Séville. De l'autre côté, vous évoquiez tout à l'heure Laurent Koscielny, vous vous souveniez potentiellement de certaines de ses erreurs. Samuel Umtiti, on se souvient aussi de ses erreurs cette saison avec l'Olympique Lyonnais, qui sont allés des champions.
Mais ils étaient tous à la ramasse à l'époque.
Oui, mais lui, malheureusement, quand lui il est fait, on les voit un peu plus, puisque ça a pour conséquence.
Mais c'est peut-être pas complètement fini pour Samuel Umtiti, parce que ça a été évoqué. Jérémy Mathieu est blessé en ce moment. Jérémy Mathieu a eu une saison très difficile avec le Barça. Il a déjà été blessé, il a été opéré. Il y a beaucoup d'éléments, donc, et je pense que Didier Deschamps ne prendra strictement aucun risque avec Jérémy Mathieu et qu'il a intérêt de se remettre très très vite, parce que la décision qui a été prise par Deschamps concernant Raphaël Varane a été extrêmement rapide. Je ne serais pas étonné qu'il prenne une décision là aussi très très rapide avec Jérémy Mathieu s'il a le moindre doute.
Mais si Jérémy Mathieu est forfait et que donc Samuel Umtiti est appelé dans cette équipe de France, il sera dans quel état mental Umtiti? Lui qui a été dépassé par Rami, il a été dépassé par Rami.
Non mais là,
vous
allez être sérieux.
Vraiment par défaut.
Il faut être sérieux une seconde.
Rami est censé être un axial droit. Umtiti, il est uniquement un axial gauche. Donc c'est dans l'esprit de Deschamps, je pense qu'il lui a expliqué de la sorte.
Et donc pour lui, c'est clair. Pour Samuel Umtiti, c'est clair.
Tu es dépassé par Ramy, c'est juste que c'est pas vraiment ton poste.
Tu es dépassé par un non-réserviste, celui qui n'était même pas dans la liste, là où
c'est
toi, c'était normalement réserviste.
C'est plus ça le problème, en
messieurs,
fait.
Messieurs, et vous, votre charnière idéale, là, compte tenu des forces en présence. On fait comment? On met Ramy
Mangala
titulaire,
voilà,
ou pas?
Koscielny Ramy ou Koscielny Mangala, c'est tout.
Il y a, ah bah, y a il faut pas... choisir quand même, parce qu'ils vont pas jouer les deux en même temps.
Il est match amicaux.
Je sais qu'elle est défaillante, la charnière, mais vous pouvez pas mettre trois joueurs.
Les matchs amicaux doivent servir à tester la charnière.
C'est quand même pas confortable.
Koscielny est inamovible et la deuxième poste sera occupée par Mangala ou Ramy, d'après moi.
Eric, c'est quand même. Étienne, pardon. C'est quand même pas très confortable d'expérimenter avant, pendant les deux matchs amicaux qui vont précéder le match d'ouverture.
La logique de Didier Deschamps, donc, aujourd'hui, donc, c'est de partir évidemment avec Koscielny et de l'associer à Mangala. Mangala fait partie du groupe depuis assez longtemps et donc, ça va être la logique du départ. Maintenant, je pense qu'il a une confiance mesurée, pour pas dire plus, donc, en Mangala et que la carte de Ramy, qui est aujourd'hui, donc, qui vient comme le remplaçant de Koscielny au cas où Koscielny soit blessé, peut devenir une carte de titulaire assez rapidement parce que, comme on l'a dit, Koscielny, donc, il joue axe gauche de la défense centrale. Et aujourd'hui, de mon point de vue, Adil Ramy est devant Mangala, donc, sur les performances, sur l'impact qu'il peut avoir. Donc, je pense que ça peut évoluer assez vite.
Mais il ne faut pas oublier qu'avant tous ces déboires récents, il y a aussi eu la blessure grave de Kurt Zouma, qui était censé être, lui,
le numéro 4.
Le numéro 4 et pratiquement devant Mangala dans la hiérarchie.
En résumé, au niveau défense centrale.
Défense à prime, voire B, quoi.
Non, mais le problème dans l'équipe de France, c'est qu'il n'y a que des défenses à prime et il n'y a que des défenses B. Il n'y a pas de défense A, que ce soit avec Raphaël Varane, avec Koscielny ou avec qui que ce soit. Aujourd'hui, on a un vrai problème de défense.
Ça vous fait rire, Eric Chorin.
Il y a un vrai problème de défense et que on est bien en peine, et c'est bien ça le problème, de savoir à qui il faut associer Koscielny, parce que franchement il y a personne qui se détache. Là on est en train de dire bon, plutôt Ramy que Mangala, enfin c'est quand même un peu inquiétant.
C'est ça. Mais Eric Chorin, je vous entends rigoler, je vais vous redonner une dernière fois la parole. Vous fréquentez aussi beaucoup d'observateurs, de gens qui suivent très assidûment, comme vous, l'équipe de France. On sait que la défense, elle était à la base de la victoire en 98, elle est souvent à la base des victoires en compétition internationale. Sont-ils inquiets, les spécialistes qui vous entourent?
Ah bah les spécialistes, oui, sont plutôt inquiets quand même de voir que finalement il y a un seul secteur dans lequel on a un peu confiance dans cette équipe, c'est le milieu de terrain, que l'attaque évidemment elle est très prometteuse mais encore très incertaine avec cet alliage entre des jeunes qui débarquent et un Martial notamment qui a beaucoup joué cette année, et puis des Giroud et Gignac qui offrent pas forcément encore toutes les garanties dans l'axe du but, et puis cette défense en lambeau et puis cette équipe finalement quand même assez largement remaniée par rapport à celle qui était celle des titulaires de la Coupe du Monde, hein, que ce soit derrière évidemment, où on manque trois défenseurs au moins sur les quatre et devant deux attaquants, ça fait quand même beaucoup. C'est vraiment une nouvelle équipe de France qui se présente un petit peu pour cet Euro, et c'est peut-être pas ce qu'envisageait Didier Deschamps au début de sa campagne.
Merci Eric Chorin d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot. Même question pour vous, là, pour ces dernières secondes, messieurs. La défense, on dit qu'elle est souvent à la base des succès. La France est-elle en train de se mettre en grande difficulté avec ses problèmes d'arrière-garde?
Oui, en partie, mais ça peut être intéressant de voir Didier Deschamps faire jouer l'équipe un petit peu à contre-nature de ses habitudes et de la faire jouer plutôt l'attaque en se basant plus sur ses qualités offensives que sur sa défense. C'est risqué, mais c'est intéressant.
Parce que c'est un pari qui vous semble tenable.
Si on veut continuer à faire peur un petit peu à tout le monde, on va aussi parler deux secondes des latéraux, parce qu'on avait beaucoup évoqué la défense centrale, mais les latéraux en équipe de France, c'est quand même pas donc des armes absolues. Que ce soit Sagna à droite et même Evra à gauche, c'est pas des garanties quand même sur une grande compétition.
On a voulu être sympa aujourd'hui.
Il n'y a pas que l'équipe de France qui est inquiétante en défense. Il y a l'équipe d'Angleterre qui est pire même que l'équipe de France. On aura l'occasion de l'évoquer. Il y a d'autres nations aussi. La France est loin d'être la pire quand même, on peut se rassurer à ce niveau-là.
C'est la moins pire des nations, ce qui en fait presque l'une des favorites. A tout de suite dans quelques minutes pour la suite de Radio Foot.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Radio Foot, bienvenue si vous nous rejoignez pour une deuxième salve d'analyse brillante et pointue, signée aujourd'hui Étienne Moati, Patrick Juillard et Salim Bangali, des chroniqueurs assez dissipés puisqu'ils continuent à parler pendant la pause, ils poursuivent les débats, mais c'est aussi ça, les passionnés. On redevient sérieux un instant, messieurs, puisque nous allons aborder un sujet qui l'est, sérieux, trop sérieux même, très sérieux malheureusement, la sécurité en France pendant cette Euro 2016. Deux attentats meurtriers, vous le savez, ont eu lieu à Paris pendant l'année 2015. Et le soir du 13 novembre, les terroristes avaient notamment frappé aux abords du Stade de France pendant que les Bleus affrontaient l'Allemagne. Autre rappel de cet enjeu sécuritaire, Mohamed Abrini, l'un des suspects des attentats de Bruxelles, a avoué que l'Euro 2016 était son objectif initial. Bref, la sécurité, c'est un enjeu crucial. On va le répéter plusieurs fois. La France devrait accueillir pas loin de 7 millions de touristes pendant cette période. Ça vous donne une idée. Bonjour Guilhem Deltay.
Bonjour Hugo.
Alors vous êtes journaliste au service France de RFI. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, tenait une conférence de presse mercredi et vous y étiez. Il a notamment dévoilé le système, le dispositif de sécurité qui va être déployé sur l'ensemble du territoire pendant l'Euro 2016.
Oui, ce dispositif, c'est près de 90 000 personnes en tout qui seront mobilisées donc durant ce mois de compétition. L'essentiel de cette force étant fourni par le ministère de l'Intérieur, 77 000 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés. Il y aura aussi une partie des 10 000 militaires qui sont aujourd'hui impliqués dans l'opération Sentinelle, qui va être spécialement affectée à la sécurité de l'euro. Ils auront notamment en charge d'assurer la sécurité dans les transports notamment. Et puis il y a des agents de sécurité privés qui sont aussi appelés à participer, puisque et des agents de collectivités territoriales, car il y a trois acteurs en fait qui sont responsables de la sécurité durant l'Euro 2016. Le comité organisateur Euro 2016 SAS, qui doit sécuriser en tout en fait une centaine de sites. Alors eux, ils ont en charge l'intérieur des stades, pas les extérieurs, l'intérieur des stades, mais aussi l'intérieur des hôtels où les équipes vont vivre pendant ce mois de compétition, les lieux d'entraînement aussi de ces équipes. En gros, en tout ça, pour eux, ça fait donc une centaine de sites. Il y a les villes hôtes qui doivent mettre la main aussi à la patte sur la sécurité de l'euro, puisque eux, ils ont en charge de la sécurité des fan zones, ces fameuses fan zones.
On va y revenir, bien sûr.
Qui suscitent beaucoup de questions. Et puis l'État, qui a en charge en fait tout ce qui est accès aux sites, les transports, bien évidemment, les alentours des stades, l'extérieur des hôtels aussi, des délégations, ainsi que les transports en fait des délégations. Il y aura des brigades à moto pour ouvrir la route, etc. Tout ça, en fait, ça, c'est de la responsabilité donc de l'État.
Et on est sûr qu'il y aura une collaboration idoine entre ces différents corps sécuritaire.
Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, assurait ce matin que chacun était parfaitement au courant de ses tâches et de ses responsabilités et que la coopération se fait en parfaite harmonie. Évidemment, je pense que c'est au moment même de la compétition qu'on verra si c'est bien le cas.
Patrick, vous voulez réagir.
On sait qu'en ce moment, en France, ont lieu des luttes sociales, donc des blocages de raffineries, des blocages des transports et autres lieux de circulation, disons. Est-ce que l'État ne craint pas d'avoir deux fers au feu, c'est-à-dire à gérer à la fois la sécurité d'un événement comme l'euro et les conflits en cours, les grévistes jouant d'ailleurs sur la proximité de l'euro pour faire pression sur le gouvernement? Alors, est-ce que ça a été évoqué?
Voilà, ça a été évoqué, la question a été posée. D'ailleurs, de manière assez intéressante, elle a été posée essentiellement par des confrères européens qui se posaient bien plus cette question finalement que les journalistes
français. On rappelle un peu les interrogations qu'on avait au Brésil, hein, en 2014. Il y avait aussi des grèves au Brésil, des manifestations au Brésil.
Voilà, sur ce point-là, le ministre de l'Intérieur... parce qu'en fait, le ministre de l'Intérieur distinguait deux menaces autour de l'euro. Il y a évidemment la menace djihadiste, la menace terroriste, et puis une menace un peu plus traditionnelle sur des événements sportifs, le hooliganisme. Et des journalistes lui disaient, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième menace qui serait le climat social? Et la réponse de Bernard Cazeneuve était non, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Et ils ont rappelé un peu les efforts faits par les autorités françaises pour débloquer les raffineries en ce moment, etc. En disant, globalement, finalement, il faut respecter le droit de grève, il faut respecter le droit de manifestation, mais il faut aussi que le pays puisse continuer à tourner. Et donc, tout se passera bien, assurait le ministre.
Étienne Moati.
Oui, on a fait un dossier donc ce matin dans l'équipe assez complet donc sur la sécurité. On a interviewé, j'ai interviewé avec Arnaud Herman le ministre Bernard Cazeneuve, et on lui a posé cette question-là. Et il a très clairement dit que les manifestations pouvaient être interdites donc pendant la durée de l'euro, considérant
que. Il ne le souhaite pas.
considérant que les forces de l'ordre ne seraient peut-être pas suffisantes donc pour organiser donc et la sécurité de l'euro et la sécurité des manifestations. Donc il faut s'attendre à des interdictions pour des manifestations.
En rappelant qu'on est toujours dans cette période d'état d'urgence, période si particulière où normalement il y a effectivement une affectation de la sécurité qui est faite sur certains événements, certaines manifestations justement.
Oui, ça, on peut effectivement, en particulier en contexte d'état d'urgence, interdire des manifestations de manière beaucoup plus souple qu'en contexte normal, mais en cas par exemple d'occupation de certains bâtiments ou blocage de, mettons, de voies de chemin de fer, ça c'est pas, on déclare pas en préfecture, donc
Je pense que vraiment
les grévistes, à mon avis, vont jouer là-dessus. Bon, après, moi, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais c'est risqué.
Je reviens, Guilhem, à ces fameuses fan zones. Donc, vous le disiez, elles ont beaucoup fait parler. Il a été question de les maintenir, de ne pas les maintenir. Ça a été un débat animé. Finalement, elles seront bien là. La plus grande est à Paris. Comment vont être sécurisées ces fan zones?
Alors, elles seront sécurisées déjà par le fait que ce seront des lieux clos, en fait. Enfin, donc, avec une capacité maximale. Et une fois que cette capacité est atteinte, eh bien, ils ne laisseront plus personne rentrer à l'intérieur. Et ça permet aussi de mieux protéger en ayant un périmètre qui est bien défini et qui ne s'étend pas sur des kilomètres et des kilomètres.
Parce que certaines barrières, des zones.
Alors il y aura des barrières, il y aura des grillages. Effectivement, je pense que ça c'est un peu au cas par cas chaque ville qui le fait. À Bordeaux c'est une place du centre-ville, mais à Paris c'est l'esplanade du Champ de Mars, donc qui est quand même très très grande. Mais à Marseille c'est même sur la plage du Prado, donc c'est une plage qui ne s'arrête pas vraiment. Donc effectivement, à un moment, bah, il y a ces barrières, il y a ces contrôles qui sont faits pour délimiter. Et puis l'entrée dans les fan zones aussi, les gens seront dénombrés pour qu'il n'y ait pas plus de personnes qui rentrent que de places à l'intérieur. Et surtout fouillés, il y aura un passage au détecteur de métaux et des palpations à l'entrée des fan zones pour éviter que toute arme ou tout ce qui pourrait être transformé en arme puisse rentrer à l'intérieur de ces espaces-là.
On rappelle, les fan zones, c'est des lieux où les fans se regrouperont, comme son nom
l'indique, pour regarder écrans géants, de sonos,
les matchs devant des écrans géants. C'est pour communier devant le football. C'est quand même de ça dont il est question à la base. Étienne, vous voulez réagir?
La difficulté, évidemment, donc il y aura 90 000 personnes qui vont essayer d'assurer donc la sécurité de l'euro. Ce qu'on peut jamais assurer complètement en termes de sécurité, ce sont évidemment les transports. Et on l'a vu avec les attentats de Bruxelles. On peut malheureusement imaginer que ceux qui ont envie de faire des attentats pendant l'euro, ils choisiront pas forcément un stade qui sera malgré tout extrêmement sécurisé, peut-être même pas non plus une fan zone qui elle aussi sera sécurisée. Malheureusement, les attentats dans les trains, dans les aéroports, comme ça a été le cas à Bruxelles, c'est beaucoup plus compliqué à prévenir.
Les stades, Guilhem, comment va être sécurisé l'accès aux enceintes qui accueilleront les rencontres de l'Euro?
Alors, l'une des grandes nouveautés en fait mises en place pour cet Euro, parce que plus de 90 000 personnes en tout, c'est quand même plus de personnes que pour le Mondial de 98. Or, c'est quand même l'Euro qui est un événement de moindre ampleur, mais la menace est pas la même, le contexte sécuritaire est pas la même. Donc là, le dispositif est supérieur, et notamment donc l'une des grandes nouveautés est l'instauration de ce qu'ils appellent une deuxième peau en fait. Autour de ça, on l'a vu au Stade de France, on en a beaucoup parlé le week-end dernier
avec
pendant la finale.
Avec quelques dysfonctionnements, pour être
avec quelques dysfonctionnements, c'est donc une façon. En fait, il y a les entrées donc du stade, mais avant même les entrées du stade, ils installent donc un périmètre de sécurité pour pouvoir rentrer dans ce périmètre, il y aura déjà des contrôles, des palpations, etc., des vérifications de ce que les gens ont sur eux. Et en fait, samedi dernier, il y en avait 4 pour l'ensemble du Stade de France, 80 000 places, donc ça fait 20 000 personnes qui doivent passer par chacune de ces 4 entrées, ce qui faisait évidemment de très très gros attroupements, ce qui a posé énormément de questions, parce que alors là, pour le coup, on est à l'extérieur du stade, assez loin, 20 000 personnes qui sont attroupées au même endroit, effectivement, les possibilités de faire un carnage assez facile.
Salim.
Guilhem a évoqué les soucis, entre guillemets, qu'il y a eu, autour de cette rencontre.
On rappelle, c'est samedi, la finale de la Coupe de France PSG Marseille.
Exactement, avec les soucis logistiques, justement, avec beaucoup d'attentes, et puis certaines personnes qui finalement sont passées sans vraiment être palpées, en l'occurrence, et qui ont pu introduire des fumigènes et autres objets justement dans ce Stade de France. J'ai envie de dire que c'était justement un test, mais c'est un test qui a priori, devrait permettre justement de régler certaines choses et de d'installer d'autres portes. Mais vous évoquez les quatre portes, entre guillemets. Peut-être qu'il y aura d'autres portes qui seront installées pour permettre...
Les personnels n'étaient pas les mêmes.
Je vous propose, messieurs, qu'on écoute justement Bernard Cazeneuve, des propos que vous avez recueillis tout à l'heure. Guilhem Deltey, il s'est exprimé sur les ratés de cette finale de Coupe de France PSG-Marseille.
Au terme de nombreuses réunions qui se sont déroulées ici même lundi et qui se sont poursuivies hier, j'ai rappelé à chacun ses obligations. Nous avons partagé ensemble les analyses et il a été décidé d'adapter sans tarder les dispositifs prévus pour atteindre trois objectifs qui doivent être absolument respectés. D'abord, garantir la fluidité de l'entrée des supporters dans les enceintes sportives. C'est fondamental en matière de sécurité, car une absence de fluidité constituerait des fils qui seraient autant de cibles. Fiabiliser les contrôles d'accès dans les enceintes sportives. Nous ne pouvons pas accepter que se trouvent dans les enceintes sportives des individus armés de feux d'artifice ou de projectiles divers. Et en second lieu, nous devions fiabiliser les contrôles d'accès dans les enceintes sportives de manière à sécuriser aussi la sortie des matchs.
Vous êtes convaincu par les propos du ministre de l'Intérieur, Étienne?
Moi, je suis plus convaincu par l'expérience que peut avoir l'organisateur, c'est-à-dire l'UEFA. Ils ont une grande expérience quand même de l'organisation de ces grandes compétitions, que ce soit l'UEFA et la FIFA. Dans l'ensemble, en termes de sécurité, ça se passe quand même plutôt bien. Il n'y a jamais de grands soucis. Donc dans
ces et les ratés de samedi, on en a tiré les leçons?
Je l'espère et je l'imagine, mais c'est vrai que l'organisation n'est pas exactement la même. Il n'y a pas des arrivées de spectateurs aussi massifs que quand vous déversez 107 cars, ce qui était le cas donc pour les Marseillais qui sont arrivés au Stade de France. Maintenant, c'est plus le contexte géopolitique, les menaces qui pèsent sur l'Europe et sur la France qui sont une inquiétude plutôt que l'organisation elle-même faite par l'UEFA.
Et Bernard Cazeneuve rappelait ce matin en fait que ce match n'était effectivement pas en configuration Euro. Donc ce n'était pas tout à fait un match. Il refuse en fait de lui accoler le qualificatif de match test, mais il dit qu'il y a eu 7 matchs test en fait avec ces dispositifs de sécurité et que le seul qui a posé problème, c'est celui de samedi, que les autres, eux, s'étaient bien passés. Donc le bilan est quand même plutôt globalement positif, mais il dit qu'il faut tirer tous les enseignements pour que ce dispositif soit parfait.
Et les forces de sécurité qui vont être à l'œuvre donc pendant cette Euro 2016 ont été entraînés avec des tests grandeur nature qui ont été assez nombreux.
Alors il y en a effectivement, ils sont préparés à tous les types de scénarios du ministère de l'Intérieur. Donc ça va de l'attaque terroriste chimique, l'attentat chimique, à la prise d'otages, mais aussi après à des problématiques plus sportives comme les heurts entre supporters ou des mouvements de foule quand on a des dizaines de milliers de personnes rassemblées au même endroit. Et là-dessus, ils ont eu une trentaine d'exercices en fait dans toutes les régions de France au cours des deux derniers mois, donc pour se préparer en fait à tous les scénarios possibles.
C'est un peu anxiogène les sujets dont on est en train de dont nous sommes en train de débattre
un peu plus encore que la défense de l'équipe de France.
Mais c'est vrai que c'est sur un autre plan en tout cas, même si c'est très anxiogène aussi. Mais est-ce que n'avez-vous pas un peu peur que cette grande fête, ça doit être ça l'euro, soit un peu gâché par tout ce système, ce dispositif sécuritaire et cette peur qui peut s'emparer des Français et des gens qui seront en France pendant l'événement?
Faut pas oublier quand même que la fête, elle est avant tout dans les stades, pendant les matchs. C'est-à-dire que tous les à côté, les avant-matchs, les après-matchs, ça fait partie de la fête, bien sûr. Mais la vraie fête du football, c'est les matchs. Et sur les matchs, je pense que les stades sont suffisamment sanctuarisés, par, comme le disait Étienne, par l'organisation bien huilée de l'UEFA pour que, à mon avis, il n'y ait pas à craindre de ce côté-là. Alors, j'espère ne pas me tromper, mais voilà.
En revanche, l'autre pendant de la fête, puisqu'il y en aura aussi une autre, par exemple, dans les fan zones ou aux abords des fan zones, aussi, c'est peut-être là où potentiellement on peut avoir un petit peu d'inquiétude. Pas sur les fan zones même, vous l'avez évoqué, Guillaume, il y aura a priori.
Mais le sentiment d'insécurité, si toutefois il existe, on pense quand même qu'il existe, peut-il gâcher un peu.
Le transport, c'est ça qui, à mon sens,
peut-il empêcher une certaine spontanéité dans les effusions de joie pour célébrer les victoires des équipes.
N'oublions pas que la plupart des supporters et des spectateurs de l'Euro viendront de l'étranger et les gens à l'étranger n'ont pas forcément eu la perception aiguë du terrorisme qu'ont eu les Français ces 6 derniers mois. Quelqu'un qui vient de Varsovie ou d'Athènes a peut-être pas vécu les attentats de Paris avec la même intensité qu'un spectateur français.
Non, il y a quand même une baisse du tourisme aussi à Paris depuis les attentats.
Oui,
donc
on a
quand même vu que les étrangers se sentaient concernés. Il y avait un peu plus peur de venir.
Les gens qui ont décidé de venir, qui ont économisé pour ça et qui seront en France, ils vont pas se dire moins faire la fête. Ils vont se dire on va en profiter, quoi. Je pense. Hein.
Merci Guilhaume Deltay d'être passé nous voir pour parler donc de la sécurité autour de cette Euro 2016, un sujet évidemment pas forcément le plus agréable à aborder, mais ô combien essentiel. Puis je vous rappelle quand même que l'Euro, c'est avant tout sur les terrains que ça se passe. Coup d'envoi dans 16 jours maintenant, France-Roumanie, ce sera le 10 juin prochain. On va revenir à un sujet plus léger, ô combien plus léger. Luis Fernandez, qui quitte son poste de sélectionneur de la Guinée. Allez, après un peu plus d'un an aux commandes du Sili National, l'ex-joueur, entraîneur du Paris Saint-Germain, entre autres, s'en va. Alors, il est agacé par les luttes de pouvoir au sein de la Fegifoot. Écoutez-le.
Pour entraîner, il faut être bien, être en confiance. Là, on sent qu'il y a des mains, il y a des gens qui essayent de déstabiliser la fédération, la Guinée. On ne pense pas à l'intérêt général du football. Là, on n'est pas en train de penser à l'intérêt général du football. On est en train de penser à ses intérêts personnels. Quand un loup rentre dans la bergerie, c'est qu'il a envie de mordre et de manger. Il faut repartir ou être dans des situations qui soient propres, qui soient bien, qui soient bien définies. C'est comme ça qu'un entraîneur, tu ne peux pas te retrouver entre des feux. Tu ne peux pas te retrouver au milieu là, de tout cela.
Alors, les propos sibyllins de Luis Fernandez, on ne sait pas trop qui vit. Ce qu'on comprend, c'est que c'est Salifou Camara, l'ancien président de la Fegifoot, qui l'a fait venir. Salifou Camara, supervé, a été victime d'une fronde, entre guillemets. Il n'est plus là, c'est un comité de normalisation qui a pris sa place. Résultat, on imagine que Luis Fernandez n'a pas forcément ne sentait plus de soutien sur sa personne, mais la rumeur de son départ bruissait déjà depuis plusieurs semaines. Le bilan du passage de Luis Fernandez, ou plutôt on va poser la question autrement, est-ce une bonne nouvelle pour le Sili de ne plus avoir Luis Fernandez à sa tête?
Disons que le Sili est encore qualifié pour le prochain tour des éliminatoires Coupe du Monde 2018, donc sur ce plan-là, tout est encore possible. Pour la CAN, ça me semble déjà compromis et je pense pas que ce soit ce changement d'entraîneur.
Cinquième journée au Swaziland la semaine prochaine et le Sili troisième de son groupe.
Voilà, une petite info complémentaire. Donc la fédération guinéenne a nommé Lapé Camara, qui est le sélectionneur de l'équipe locale, qui avait d'ailleurs bien joué lors du CHAN 2016, qui avait fait de bons matchs. Lapé Bangoura, donc sélectionneur à titre intérimaire et potentiellement peut-être à titre plus définitif si ça se passe bien. Et s'il peut gérer les différentes charges donc qu'on lui a données. Après, bon, je trouve que Luis Fernandez est très bien informé de ce qui se passe en Guinée pour quelqu'un qui n'a pas vécu sur place pendant son mandat de sélectionneur.
C'est l'un des gros points noirs de son mandat, ça d'avoir refusé dès le début de s'installer en Guinée.
C'est un peu ça le problème. Il est presque structurel. Luis Fernandez, il fait de la radio comme nous aujourd'hui.
C'est d'ailleurs sur cette radio qu'il a annoncé sa venue et son départ. On n'est jamais mieux servi que par semaine.
Il a une émission quotidienne donc sur RMC, c'est pas rien. Donc forcément, il est un petit peu éloigné donc de ce qui se passe là-bas. Lui, évidemment, considère que ça ne pose strictement aucun problème, qu'évidemment, il se tient au courant en permanence de ce qui se passe, que ça ne l'empêche pas de suivre les joueurs, etc. On sent bien que c'est un tout petit peu plus compliqué. Autant je crois à la capacité de Luis Fernandez sur un tournoi final à entraîner une équipe. Il a une force de persuasion, il a un caractère, il a du charisme, exactement, sur du court terme. Autant structurellement, ça me paraît plus compliqué et d'être animateur radio et d'être entraîneur de football.
Salim, on rappelle qu'il a commencé avec deux défaites embarrassantes. Le mot est faible. En amical face au Tchad, ça passe encore. Mais au Swaziland, à domicile, bon, c'était délocalisé au Maroc. Face au Swaziland, là, le Sili a deux journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2017 et troisième de son groupe derrière le Zimbabwe et le Swaziland. C'est quand même un bilan mitigé. Le mot est faible.
Pour ne pas dire autre chose, parce que la génération guinéenne est quand même bonne, voire très bonne sur certains points. Alors, il y a eu les soucis au tout début, notamment.
Des joueurs qui ne voulaient plus revenir.
On pense à Ibrahima Traoré, par exemple, qui ne voulait plus revenir ou qui après a voulu revenir, mais au final, enfin, il y a eu des soucis. On n'a jamais trop compris au final entre Luis Fernandez et Traoré ce qui s'est vraiment passé, ce qui s'est dit, pardon, entre les deux. Luis Fernandez, et ça a été évoqué, n'est donc jamais resté en Guinée au final très longtemps. Il a préféré à chaque fois revenir en France pour travailler justement aussi de son côté. Les sélectionneurs qui sont pris en sélection africaine et qui au final préfèrent résider dans leur pays d'origine, le pays européen, ouais. On le sait, ça marche quasiment jamais. Luis Fernandez, tout à l'heure, je disais, c'était drôle. C'est son cas qui est drôle, pas le cas guinéen qui lui est désespérant.
Et son cas,
quand vous avez une telle équipe, de faire ça.
Et son cas est-il emblématique? Alors, pourquoi le Sili est-il allé chercher un entraîneur qui, a priori, est très éloigné de la réalité du foot africain?
Bah parce que bon, le Sili était, avant Luis Fernandez, avait été dirigé avec quand même brio par Michel Dussuyer, qui lui, au contraire total de Luis Fernandez, était quelqu'un qui vivait dans le pays, qui allait voir beaucoup de matchs, qui suivait des joueurs. Il était capable de vous citer des binationaux qui jouent en CFA2 en France, qui faisaient un travail vraiment de fourmi, de détection des talents. Maintenant, c'est arrivé aussi, il faut pas l'oublier, au moment où la Guinée était encore sous la menace Ebola. Donc ça n'a pas facilité les choses, puisqu'à l'époque, la Guinée ne pouvait pas recevoir à Conakry.
Difficile d'attirer des
matchs au Maroc. Ouais. Donc c'est, disons que ça donnait quelque chose d'un peu bâtard pour le sélectionneur. C'est il était fait. Chez c'est lui sans être chez c'est lui.
Pas. Mais là, vous parliez de Lapé Bangoura, donc il va remplacer de manière intérimaire Luis Fernandez, demi-finaliste du CHAN, quelqu'un qui connaît bien le football local. Est-ce que c'est pas ces solutions-là qu'il faut privilégier plutôt que d'aller chercher des entraîneurs européens qui, a priori, n'y connaissent pas grand-chose, Étienne?
Ouais, d'abord, c'est quand même de la responsabilité des dirigeants et pas de Luis Fernandez, parce qu'à aucun moment Luis Fernandez n'a indiqué qu'il allait aller vivre en Guinée et qu'il allait abandonner donc son émission quotidienne sur RMC. Donc il savait à quoi s'en tenir, et donc s'ils ont été chercher Luis Fernandez, c'était pour qu'il exerce sa fonction de cette manière-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des entraîneurs donc qui ne séjournent pas en permanence donc dans le pays dont ils assurent les destinées de la sélection. Maintenant, de pas y séjourner du tout, ça devient quand même un problème. Donc il doit pouvoir y avoir quand même un équilibre.
Aujourd'hui, il y a des contre-exemples avec Claude Deroy évidemment, ou Michel Dussuyer aussi au Congo, et puis il y a aussi des entraîneurs locaux, africains, qui peuvent être bons, voire très bons. Le cas de Florent Ibengue, que ce soit avec l'équipe du CHAN de RDC ou l'équipe A également, qui affronte la Roumanie aujourd'hui. Enfin, lui est un exemple d'entraîneurs africains qui peuvent être bons, voire très bons.
Alors, on l'a dit, Ibrahima Traoré, la star et le capitaine du Sili, aura joué sous les ordres de Luis Fernandez. Il aura également joué sous les ordres de Lucien Favre, ancien entraîneur. Ah ouais, c'est tout un métier.
C'est tout un métier.
Ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach, c'est un peu là qu'il s'est révélé. Lucien Favre, un club qu'il a quitté, de manière un petit peu chaotique. En septembre dernier, il y avait une série de défaites. Cinq défaites d'affilée, mais il n'empêche, avant, il l'avait emmené loin, assez haut dans le classement, et même en Ligue des Champions. Et là, il signe à Nice, Lucien Favre, votre club, on va le révéler. Peut le révéler aux auditeurs.
Je n'en fais pas mystère. C'est ma ville natale et c'est mon club de cœur.
C'est incroyable que l'OGC Nice puisse remplacer Claude Puel par Lucien
Favre. C'est ce qu'on
Favre.
Appelle un gros coup, puisque hier après, en début d'après-midi, le club officialisait le départ de Claude Puel, que l'on annonçait plutôt en bonne voie pour reprendre du service, donc prolonger son contrat qui arrivait à terme le 30 juin. Et bon, les supporters niçois commençaient à être en pleine crise de nerfs. Et une heure après, on annonce officiellement l'arrivée de Lucien Favre, qui est quand même une grosse pointure.
Et qui a été courtisé par Lyon, par Marseille, dans le passé.
C'est un coach qui a été élu 3 fois meilleur entraîneur de Bundesliga en Allemagne. C'est un coach qui a quand même une réputation de qualité de jeu, de rigueur dans le football qu'il fait pratiquer à ses équipes. Et bon, pour Nice, c'est vrai que la quatrième place, donc directement qualificative pour l'Europa League, a dû aider le club à le convaincre. Mais Jean-Pierre Rivière faisait courir le bruit il y a quelques semaines que ne vous inquiétez pas pour la suite. Si Claude Puel s'en va, on a des bonnes pistes. Et il avait dit c'est du lourd. Bon, on se demandait s'il bluffait ou pas. Et finalement, visiblement, il ne bluffait pas.
De quoi faire réfléchir à Tembe Nerfa?
Alors ça, c'est une des autres réflexions qui vont avoir lieu rapidement. Je pense qu'on devrait le savoir assez vite.
Eh ben, si Atem Bernard réussit à hésiter entre l'OGC Nice et le Barça,
je comprends plus rien
au football. Avec Lucien Favre, on n'est pas en train un petit peu de s'emballer quand même, parce que moi je l'ai vu annoncer, donc évidemment, donc depuis des années, donc nombreux clubs français, il n'est jamais allé nulle part.
Oui, après il est en Allemagne.
C'est un entraîneur en effet qui a une vraie qualité de jeu. Maintenant, c'est pas non plus un entraîneur qui a un gros palmarès. Il faut quand même le souligner. gagné. Il est aussi annoncé donc pour succéder à Guardiola au Bayern. Bon, finalement, c'est pas lui, c'est quelqu'un que personne ne connaît, Carlo Ancelotti. Faut peut-être se calmer un tout petit peu hein, quand même avec Lucien
Favre. Non, mais c'est par rapport
à l'OGC Nice. N'allait pas accueillir Carlo Ancelotti. En revanche, Lucien Favre, on s'y attendait moins. L'attractivité de l'OGC Nice était insoupçonnée.
Oui, tout d'un coup, effectivement, ce club de Nice peut attirer des bons coachs, un très bon coach de Bundesliga, alors qui certes a mal fini puisqu'il a démissionné lui-même la saison dernière après 5 défaites en 5 rencontres. Mais cette équipe de Mönchengladbach, il faut le rappeler, lorsqu'il arrive à la tête de cette équipe est au bord de la relégation. Il réussit à la maintenir et petit à petit, il a fait progresser avec cette quatrième place obtenue il y a deux saisons en Bundesliga.
Et des joueurs qui se sont révélés avec lui,
un certain Marco Reus, Ter Stegen et bien d'autres, etc.
C'est là où il y a une cohérence. Donc tout de même, j'ai critiqué un peu Nice et je me suis moqué de Lucien Favre. C'est-à-dire que c'est un entraîneur donc qui fait jouer les jeunes, qui les fait progresser. Donc Nice est sur cette voie-là, donc c'est plutôt une bonne chose.
Il y aura une chose aussi qui sera à observer avec l'arrivée de Lucien Favre pour cette équipe de Nice la saison prochaine. Lorsqu'il était à Mönchengladbach et même au Hertha Berlin, c'est l'un des entraîneurs qui utilisait le plus de joueurs dans son effectif. Il n'hésitait pas à faire tourner ses effectifs. La saison dernière, lorsqu'il finit donc quatrième de Bundesliga, lors des 17 premiers matchs de la saison, il change 17 fois de composition d'équipe. Il n'hésite pas à faire tourner puisque l'équipe joue la Coupe d'Allemagne, etc. Donc, il faudra voir aussi la profondeur de banc niçoise et donc les investissements niçois derrière. Si Lucien Favre arrive, c'est sans doute qu'il a eu des garanties puisque Nice va jouer tous les trois jours par certaines séquences avec la Coupe d'Europe et des
Coupes. Dernière question, Patrick. Le mot de la fin pour vous, c'est bien normal sur ce sujet. Est-ce une bonne nouvelle pour la Ligue 1, de pouvoir accueillir des entraîneurs aussi bien cotés?
Oui, c'est une excellente nouvelle. Pour moi, Lucien Favre est un peu de la catégorie intermédiaire entre les entraîneurs du très haut du panier, type Ancelotti, Mourinho, les entraîneurs des top clubs de Ligue des Champions, et les bons entraîneurs de Ligue 1. On est dans une catégorie intermédiaire d'entraîneurs un peu à la Bielsa, Sampaoli, ce type d'entraîneur-là qui pourrait passer dans la top catégorie, mais qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est pour moi une excellente nouvelle, sachant que le réservoir niçois en termes de formation est important. Il y a un gros travail qui a été fait et approfondi sous Claude Puel. Donc,
on s'enflamme toujours un petit peu sur la Côte d'Azur. Ça met un peu j'essaie de mettre un peu en perspective les propos de Patrick Juillard. Merci, messieurs. Demain, c'est Olivier qui revient. Merci, Guillaume Ploquin, à la réalisation et Jean-Pierre Bessière qui m'a aidé à préparer cette émission. Très bonne soirée à l'écoute de RFI. Le site RFI.